Washington, la voix de l'Amérique, tous les soirs à partir de 18h30 temps universel et les matins du lundi au vendredi à partir de 5h30 TU.
Bonsoir à tous et à toutes au micro Idrissa Seloudia pour ce second bulletin d'information de la soirée. Le président Barack Obama a exhorté aujourd'hui ses concitoyens à ne pas céder à l'hystérie ou la peur de l'Ebola en demandant aux gens de savoir raison garder. Il a déclaré dans son allocution hebdomadaire à la radio que les États-Unis pourraient bien avoir d'autres cas isolés, mais qu'il est absolument confiant dans la capacité des autorités à empêcher une sérieuse épidémie aux États-Unis. Les trois cas déjà diagnostiqués n'équivalent pas à une épidémie. La maladie a fait en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone plus de 4 500 morts et quelques 9 200 cas ont été confirmés. Les États-Unis, a promis M. Obama, continueront de mener la réponse internationale en Afrique de l'Ouest pour étouffer à la source cette maladie. Le gouvernement du Nigeria compte discuter avec Boko Haram la semaine prochaine au Tchad des modalités de libération de plus de 200 lycéennes enlevées en avril par les militants islamistes. Les deux parties ont accepté le cessez-le-feu hier. Mais des informations sur de nouvelles attaques sanglantes contre des villages de l'État de Borno hier et aujourd'hui ont amené certains à se demander si Boko Haram n'avait pas déjà violé le cessez-le-feu. Mais le gouvernement nigérian assure que la trêve tient. Un collaborateur du président Jonathan a dit à la Voix de l'Amérique que la direction du groupe a entériné l'accord et que cette violence a été perpétrée par des groupes marginaux de combattants qui, vraisemblablement, ne sont pas encore au courant. Selon un correspondant de la Voix de l'Amérique, au moins 40 personnes ont été tuées dans ces attaques. Nouvelle tuerie dans l'est de la République démocratique du Congo, où des rebelles ougandais de l'ADF sont soupçonnés par les autorités d'avoir massacré au moins 21 personnes au nord Kivu la nuit dernière. Selon l'AFP, la plupart des victimes étaient des femmes et des enfants tués avec des machettes, haches et houes. L'attaque a eu lieu à 45 km de Beni, où dans la nuit de mercredi à jeudi, 26 personnes ont été tuées par les mêmes rebelles ADF, disent les autorités. Une délégation de la médiation internationale dans la crise centrafricaine est arrivée samedi à Bangui pour rencontrer les groupes armés et ramener le calme après la flambée de violence qui a fait une vingtaine de morts depuis 15 jours. Cette visite à l'initiative du président congolais Denis Sassou Nguesso, le médiateur dans la crise centrafricaine, est notamment composé du chef de la mission de l'ONU en Afrique centrale, Abdoulaye Batili, et du ministre congolais des Affaires étrangères, Basile Ikwebe. À Hong Kong, le gouvernement dit qu'il commencera vraisemblablement mardi les pourparlers avec les étudiants protestataires après des nuits d'accrochage entre les manifestants pro-démocratie et la police. Les États-Unis et la Chine ont souligné la nécessité de surmonter la méfiance, de gérer leurs divergences et de coopérer dans des domaines clés tels que la lutte contre le terrorisme, le groupe État islamique et la propagation de l'épidémie d'Ebola. Le secrétaire d'État John Kerry et le conseiller d'État chinois Yang Jiechi se sont également engagés à coopérer sur l'Afghanistan, l'Iran, la Corée du Nord et le changement climatique lors de leur seconde journée de pourparlers aujourd'hui à Boston. En Irak, le Parlement a approuvé aujourd'hui les nominations des parlementaires Khaled al-Obeidi et Mohamed al-Gaban aux postes sensibles de ministres respectivement de la Défense et de l'Intérieur. M. Obeidi est un sunnite de Mossoul et M. Gaban, un chiite membre d'un puissant bloc politique. La plupart des membres du nouveau gouvernement du Premier ministre Haïdar al-Abadi avaient été approuvés le mois dernier. Les États-Unis et les autres pays poussaient pour un gouvernement plus représentatif à Bagdad, où l'ancien Premier ministre Nouri al-Maliki était accusé d'avoir marginalisé les sunnites, aidant ainsi la montée des militants du groupe islamique.
Washington, la voix de l'Amérique, tous les soirs à partir de 18h30 temps universel et les matins du lundi au vendredi à partir de 5h30 TU.
Le magazine au féminin de la Voix de l'Amérique.
Le magazine au féminin de La Voix de l'Amérique avec Nathalie Barge et une invitée en ligne. Alors une invitée que nous avons déjà eue quelques fois dans le magazine au féminin, Brigitte Filion, responsable du programme de partenariat entre hommes et femmes à l'Union interparlementaire à Genève. Bonjour Madame Filion.
Oui, bonjour. Bonjour.
Alors, c'est pour parler d'un prix qui s'appelle Future Policy Award, donc 2014, notamment en rapport à la lutte engagée par ces entités contre la violence faite aux femmes. Et donc, le premier prix a été donc décerné donc, au modèle de la ville de Duluth. C'est dans le Minnesota, aux États-Unis. Le projet de cette ville a été déclaré meilleure politique mondiale dans un travail engagé contre la violence faite aux femmes. Alors, pourriez-vous nous en dire plus ?
C'est un modèle qui s'appelle la réponse communautaire coordonnée à la violence domestique. Donc, ça a été créé en 1981. C'est une sorte de riposte communautaire coordonnée où tous les partenaires de la collectivité se sont associés pour lutter effectivement contre les violences faites aux femmes. En fait, les partenaires, on parle ici surtout de la police, des groupes de femmes qui aident les victimes, les refuges, tous les services sociaux et la justice, évidemment. Et c'est un modèle qui met toute l'importance autour de la sécurité et l'autonomie des victimes ou des survivantes de violences et la nécessité aussi de mettre les coupables face à leurs responsabilités. Chaque intervenant est sensibilisé, formé sur la problématique des violences conjugales, sur les relations de pouvoir qui sont en œuvre dans ces violences. Ils suivent concrètement l'application de la loi, évaluent s'il y a des problèmes et essaient de les régler au fur et à mesure. Donc,
si ce prix a été remis donc à cette entité, finalement, c'est que c'est un programme qui a fait ses preuves en quelque sorte. Et je précise que le futur Policy Award 2014 était donc sur le thème « Mettre fin aux violences contre les femmes et les filles ». Et c'est en collaboration, c'est un prix qui est décerné donc par le World Future Council, l'Union interparlementaire donc, dont vous faites partie, et ONU Femmes. Et donc vous avez remis cette médaille d'or aux représentants du Minnesota. Et que dire également sur la médaille d'argent ?
Pour le Burkina Faso, effectivement, c'est la loi qui interdit les mutilations génitales féminines. C'est une loi, c'est un amendement au code pénal qui a été adopté en 1996. Mais ce qui a été récompensé aussi, c'est tout le travail de mise en œuvre de cette loi qui a été fait par le Burkina Faso, qui a adopté un plan d'action national, qui a mis en œuvre des lignes téléphoniques d'urgence pour que les gens puissent alerter quand une fille, une enfant menace d'être excisée. Et qui a fait beaucoup aussi de formation et de sensibilisation pour essayer d'enrayer cette pratique au Burkina. Et c'est aussi une politique, une loi qui a donné des effets positifs. La pratique de l'excision est en train de reculer maintenant au Burkina.
Alors l'Autriche a reçu également une médaille d'argent pour sa loi prévoyant une assistance juridique et psychosociale aux victimes de violences.
Oui, effectivement. C'est une mesure très particulière d'assistance juridique et psychosociale qui a été mise en place en 2006, qui permet à toutes les victimes de violences sexistes, d'abus sexuels, de pouvoir bénéficier de services psychologiques et d'assistance juridique gratuite pour les préparer aux démarches en justice et à un procès pour obtenir justice et réparation.
Et alors là, vous allez nous parler du tout nouveau prix de la catégorie Vision Award qui nous permettra de connaître la fameuse Convention d'Istanbul.
Exactement. Alors, la Convention d'Istanbul, adoptée par les pays du Conseil de l'Europe, mais qui est aussi ouverte à la ratification par tous les pays du monde et qui couvre vraiment toutes les formes de violence à l'égard des femmes, qui prévoit des mesures de prévention, des mesures aussi qui visent à garantir que les agresseurs seront poursuivis, plusieurs aussi mesures pour protéger les survivantes de violences et des mesures aussi au niveau des services d'accompagnement et d'aide aux victimes des violences. Et c'est un traité des droits de la personne qui sera juridiquement contraignant, en tout cas pour tous les États qui vont le ratifier.
La violence domestique, finalement, c'est la plus courante, la plus étendue, on imagine, dans la plupart des pays, et la plus discrète d'une certaine manière, ce qui est délicat finalement, parce qu'en général, quand des femmes ou des filles sont victimes de ce type de violence, il n'y a pas de témoin. Donc d'où l'importance de lois très concrètes et surtout de pouvoir les appliquer, c'est ça?
Vous avez mis le doigt dessus. Il faut mettre en place les conditions pour que les victimes puissent dénoncer les cas de violence.
Et
qu'elles se sentent suffisamment en confiance pour pouvoir le faire. C'est là que l'application, la mise en œuvre vraiment rigoureuse des lois a toute son importance. Parce que toutes les mesures d'accompagnement doivent être en place pour qu'une femme victime de violence puisse dénoncer avec confiance et dans la sécurité aussi, parce que ça peut être dangereux de dénoncer à la police quelqu'un de violent tout en sachant que le fait d'aller dénoncer va provoquer d'autres violences. Donc il faut s'assurer que tout soit en place pour garantir la protection vraiment des victimes.
Ben merci beaucoup Brigitte Filion, responsable du programme de partenariat entre hommes et femmes à l'Union interparlementaire à Genève. À très bientôt, au revoir.
Au revoir.
Parole de femme.
Vous écoutez le magazine au féminin de La Voix de l'Amérique avec vous, Nathalie Barge, avec une invitée en ligne, Fatoumata Diandéré Diallo, vice-présidente du Parlement du Burkina Faso. C'est pour parler donc de la 131e Assemblée de l'Union interparlementaire qui s'est tenue donc récemment à Genève, auquel donc Madame Diandéré Diallo a participé. Alors, le sujet de cette année était instaurer l'égalité entre hommes et femmes et mettre fin à la violence envers les femmes. Allô, Madame Fatoumata Diandéré Diallo ?
Oui, c'est bien moi, madame.
Oui, bonjour, madame. Comment allez-vous?
Je vais très bien, merci. Et vous?
Ça va très bien. Nous savons que le Burkina Faso a remporté un prix spécial aussi, hein, pour sa loi interdisant les mutilations génitales féminines.
Et c'est vrai que madame Chantal Compaoré, épouse du président du Burkina Faso, a reçu le prix Future Policy Award. Et pour sa lutte inlassable contre l'excision. Et une dame engagée, en tout cas qui se bat chaque jour pour le bien-être des femmes et des jeunes filles. Et elle a fait une déclaration devant la plénière qui nous aura donné des indications importantes sur l'action concrète qui est menée au Burkina Faso contre le fléau des mutilations génitales féminines, madame.
Alors, on précise au passage, effectivement, hein, que selon les chiffres, le nombre de filles de moins de 14 ans qui sont excisées est tombé à 12% contre 25% en 2006. Alors, l'objectif, c'est 0% tout de même.
Oui, l'objectif, c'est tolérance zéro. La mobilisation est générale. Quand je prends la structure qui mobilise les épouses des chefs d'État et de l'Afrique de l'Ouest, et chacune dans son pays se bat. Mais nous allons retenir que ce combat a mené les premières dames. L'excision actuellement se transforme en excision transfrontalière. Il n'est pas rare de voir des exciseuses de la République du Mali, je prends un exemple, qui franchissent la frontière pour venir au Burkina Faso pour faire cette pratique et vice-versa. Ce qui veut dire que assez longtemps, il a été développé des méthodes pour pouvoir contrer cette excision, mais celles qui se rebellent toujours à cette pratique trouvent aussi d'autres moyens pour pouvoir continuer. Mais je retiens quelque chose de très important. Il y a quand même eu des effets positifs qu'il faut noter, c'est la mobilisation générale des personnes ressources, comme nous les appelons, autour des chefs religieux, des chefs coutumiers et surtout de la société civile au Burkina Faso, et sous en tout cas la clairvoyance de Mme Chantal Compaoré et du gouvernement burkinabé, nous sommes arrivés à ce résultat.
Alors, Mme Diandéré Diallo, je rappelle que vous êtes vice-présidente du Parlement du Burkina Faso. Donc, parlons justement de votre travail à vous, parlons des lois. En matière de mariage forcé, de mariage précoce au Burkina Faso, est-ce que vous parvenez à sanctionner des personnes et à faire évoluer les choses, notamment pour les filles mineures qui sont mariées?
Oui, c'est vrai, madame, il y a d'autres mots. Les mariages forcés, on a des grossesses indésirées, on a des personnes âgées sans soutien au niveau de la famille, celles qu'on appelle les mangeuses d'âmes, qui sont brutalisées et chassées de leur village, mm-hmm. et qui se retrouvent aujourd'hui à Ouagadougou au sein d'un centre qu'on appelle le centre de Luende. Mais toutes ces choses, c'est des violences faites mm-hmm. aux femmes. Au sein, par exemple, du Parlement burkinabé, et nous avons le réseau qu'on appelle le caucus Jean. Et à ce jour, je peux vous dire, madame, qu'il y a une loi qui est en train d'être déposée sur le bureau du président de l'Assemblée nationale pour que enfin nous voyons une loi contre les violences faites aux femmes. Et c'est depuis quand même deux législatures que des députés se sont mis ensemble pour porter cette réflexion, mais nous pensons que nous allons y arriver. Mais je dis toujours, il y a la loi, mais il y a aussi l'éducation à la base. Et il faut que les enfants sachent déjà ce qui se prépare.
Vous voulez dire qu'il faut que les enfants connaissent leurs droits?
Il faut que les enfants connaissent leurs droits. Et je pense qu'au niveau des écoles primaires, secondaires et à l'université, il faut aussi trouver un moyen de sensibiliser les enfants. En tout cas, la loi est déjà sur la table du président de l'Assemblée nationale. Et j'espère que très bientôt, nous allons nous retrouver encore pour parler de cette loi parce qu'elle sera votée.
En matière de violence conjugale, par exemple, qu'est-ce que vous prévoyez dans la loi?
Chaque pays a sa spécificité. Je prends un exemple. La loi que nous avons votée sur le quota de 30% en 2009, ben, il a fallu batailler dur et avoir un maximum d'hommes, de personnes ressources qui accepte ce que nous avons mis dans cette loi. Mais il a fallu aussi, pour avoir un consensus, retirer certains points que les hommes trouvaient assez durs. Et tout compte fait, on est arrivé au vote de la loi sur le quota qui donne 30% et aux élections législatives et municipales. Par rapport à la loi contre les violences faites aux femmes, vous savez que tout ce qui touche à la famille jusqu'à présent est une question taboue. Il n'est pas rare de voir des femmes qui sont battues et tout le voisinage sait que la nuit, elle a été battue, mais le lendemain, c'est des choses qui ne se discutent pas dans les coins de la rue. C'est une honte pour une femme de dire le lendemain qu'elle a été battue par son mari. Mais malheureusement, quand les pires arrivent, c'est des décès qu'on retrouve. Mais en tout cas, il est question des violences au sein donc du foyer. Et je pense qu'en son temps, nous pourrons échanger parce que pour le moment, la loi n'a pas encore été votée et je souhaite que certaines questions ne choquent pas déjà parce que pour nous, c'est de pouvoir faire aboutir la loi. Il faut que nous ayons cette vision que nous n'allons jamais aboutir à ce que nous recherchons tant que femmes et hommes, nous n'allons pas nous donner la main au sein de nos parlements.
Alors, à propos d'hommes, Madame la vice-présidente du Parlement du Burkina Faso, vous savez que majoritairement ce sont les hommes qui sont présidents, vous en avez un, Monsieur Blaise Compaoré. Une petite question qui fâche, vous y répondez si vous voulez ou pas, à propos de loi. Est-ce que vous pensez que bon, on peut modifier des constitutions pour que des présidents puissent se représenter tous les 5 ans, 3 fois, 4 fois, etc.
Mais madame, vous m'avez demandé si je pouvais faire le choix. Ben, je souhaite ne pas faire ce commentaire. Mais vous savez qu'il y a un dialogue qui est instauré par le président Blaise Compaoré qui réunit toutes les forces politiques du Burkina Faso afin de trouver une solution heureuse permettant au Burkina Faso de continuer sur cette lancée.
Justement, comment vous expliquez que dans un pays démocratique comme le Burkina Faso, une telle question puisse se poser alors que les règles constitutionnelles existent?
Oui, madame, vous savez que nous sommes en politique et tout peut arriver, tout peut se faire. Moi, je ne voudrais pas dévancer ce dialogue institué parce que je pourrais dire des choses qui peuvent fâcher et que des solutions puissent être trouvées et ma réponse peut être sans objet.
et que l'on puisse éventuellement avoir un jour au Burkina Faso une femme présidente.
Pourquoi pas ? Tout peut arriver. Ailleurs, c'est arrivé. Pourquoi pas au Burkina Faso ?
Merci beaucoup, Fatoumata Diandéré Diallo, vice-présidente du Parlement du Burkina Faso. Et puis, ben, on espère pouvoir vous reparler très bientôt. Au revoir, madame.
Oui, merci. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt.
Happiness. L'espace des sangs. Now we are coming to another change of season, and you still don't want a new because you never change.
Vous écoutez le magazine au féminin de La Voix de l'Amérique avec Nathalie Barge, une édition spéciale pour parler de la 131e Assemblée de l'Union interparlementaire, dont le sujet cette année était « Instaurer l'égalité entre hommes et femmes et mettre fin aux violences envers les femmes et les filles ». Et nous avons à présent une députée de la RDC, Marie-Thérèse Fifi Senimazuka, députée nationale de la ville de Lubumbashi, dans le Katanga, notamment rapporteur adjoint du comité des sages. Comment allez-vous ?
Ça va très bien, merci.
Qu'est-ce que vous auriez à dire d'une manière générale sur les conclusions, bah surtout de la rencontre hein, des femmes parlementaires hein, qui a eu lieu donc le 12 octobre ?
Ça nous a permis au moins de faire les bilans. Depuis la déclaration de Beijing, aujourd'hui, pratiquement vers l'année 2015, nous serons à 20 ans. Qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui doit être fait et quelle est l'amélioration de la vie de la femme aujourd'hui? Et aussi, je pense que nous devons continuer à passer à l'action pour voir le changement efficace dans la vie de la femme. L'amélioration n'est pas vraiment nette. Beaucoup plus dans mon pays, qui est un pays post-conflit. Les violations sexuelles sur la femme sont encore dans la tête de toutes les femmes. Donc, je crois que nous devons continuer à passer à l'action.
Nous allons revenir hein, sur ce problème des violences sexuelles dans l'Est de la RDC. Est-ce que vous êtes toujours la seule femme sur 13 sièges à Lubumbashi ?
Oui, je suis toujours la seule femme qui a été réélue à Lubumbashi. Je l'ai été en 2006, je l'ai été encore en 2011. Je suis la seule femme.
Alors vous qui êtes une combattante hein, de la parité, quel est votre constat par rapport à cela ? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez regretter d'être la seule ?
Oui, je regrette toujours d'être la seule parce que vous savez, être parmi aujourd'hui, parmi 12 hommes, tu es la seule. Ta voix n'est pas toujours prépondérante. Je pense que si nous étions plus nombreuses, le front pouvait être facile pour moi. Je le regrette sincèrement et j'exhorte toujours les autorités à pouvoir élaborer une loi électorale qui va permettre aux femmes d'accéder aussi au pouvoir et beaucoup plus dans les domaines si nous pouvons aussi avoir une facilité financière. C'est ce aussi qui freine parce que les campagnes électorales sont trop coûteuses pour les femmes.
À propos des violences sexuelles dans l'Est de la RDC.
La Cour pénale continue à faire les enquêtes. Et puis, si je pouvais juste vous compléter, les violences ne sont pas seulement à l'Est. Vous les avez aussi dans ma province, au Katanga, où il y a présentement aujourd'hui les phénomènes Katakatanga. Donc, ça continue à faire des victimes parmi les femmes. Et en ce qui concerne la Cour pénale, les témoignages qui continuent, la République elle-même continue aussi à faire la justice, mais je pense qu'avec la Cour pénale, ça peut continuer à aider les femmes à pouvoir se sentir un peu en sécurité, parce que quand ça va au-delà de nos frontières, les gens peuvent se dire, nous pouvons arrêter.
Alors à ce propos, donc, l'on sait qu'une série de crimes de violence sexuelle hein, sont visés par le statut de Rome. Qu'est-ce que vous avez entrepris en matière de loi contre les violences sexuelles jusqu'ici en RDC ?
Il y a quand même des gens, des politiciens ou des chefs de groupes armés qui ont été envoyés à la Cour pénale. C'est une façon aux yeux de la communauté internationale de voir que nous collaborons et nous ne pouvons pas toujours abriter les gens qui commettent des violences sur les femmes, aussi sur les enfants. En ce qui concerne les lois, il y a des lois en pipeline pour permettre l'efficacité et même l'application de cette parité entre hommes et femmes qui continue à être élaborée et qui seront prochainement promulguées.
Alors, vous avez interpellé à vous-même personnellement plusieurs fois la communauté internationale. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui qu'il y a eu des progrès ?
Je peux dire quand même qu'il y a eu des progrès par rapport à ce qui s'est passé avant. Comme vous l'avez dit, j'ai eu à décrier, j'ai participé à des marches. Nous avons été jusqu'au siège de la MONUSCO pour pouvoir décrier que la MONUSCO ne faisait pratiquement rien dans notre pays et que la guerre avait perduré. Il n'y avait vraiment pas de solution. Mais je crois avec cette marche que nous avions fait, la marche où nous étions habillés en noir, nous pensons que la voix de la femme avait été entendue. Et nous n'allons pas nous arrêter là, parce que cette guerre n'est pas totalement terminée, parce que l'agression du Congo n'est pas totalement terminée, et je continue à exhorter la communauté internationale à venir en aide à la femme congolaise, à la petite fille congolaise.
Vous êtes combien déjà de députés femmes en RDC?
Notre assemblée compte 500 députés. Sur les 500 députés, aujourd'hui quand même, il y a une toute petite évolution par rapport à l'autre législature, nous sommes à 53 femmes sur 500.
Ça fait un petit 10%, quoi.
C'est un petit 10%. En 2006, nous étions à 8%.
C'est vraiment faible si on compare à pas mal d'autres pays, notamment le Rwanda, juste à côté, par exemple, un bon exemple.
Oui, oui, le Rwanda, aujourd'hui, dans le monde, c'est un pays exemplaire. Évidemment, ils ont 100 députés. Sur, je crois, 100 députés, ils ont 62 ou quelque chose comme ça pour cent de la femme. Mmh. C'est un exemple à suivre. Je crois que si on pouvait faire beaucoup plus confiance à la femme, si tous les pays pouvaient suivre l'exemple du Rwanda, je crois que nous pouvions avoir beaucoup de femmes dans les institutions de prise de décision. Nous, nous essayons toujours d'approcher nos collègues hommes pour les faire comprendre, mais ce n'est pas toujours très, très facile pour les collègues qui viennent pratiquement des milieux beaucoup plus ruraux.
Alors, vous êtes députée nationale de la ville de Lubumbashi. Je vais vous poser, pour terminer, la même question que j'ai posée à la vice-présidente du Parlement du Burkina Faso. Vous avez un petit peu le même problème, d'une certaine manière, dans votre pays. Est-ce que vous pensez qu'il y a lieu de modifier des articles qui garantissent la démocratie ?
Pour notre pays, la démocratie est encore très, très jeune. C'est quelque chose que nous devons préserver. Si dans notre pays, aujourd'hui, nous parlons de la révision de la Constitution, il y a l'article 220 que nous voulons protéger, que nous ne voulons pas réviser. Mais si nous avions parlé de la révision de la Constitution, c'est en ce qui concerne la loi électorale. Et que pour que nous puissions toucher à cette loi électorale, nous devons obligatoirement changer la Constitution pour pouvoir changer la loi électorale en suffrage direct, en indirect. C'est ça qui va pousser à ce que nous puissions toucher à la Constitution. Mais ma vie, garder cette Constitution et protéger en ce qui concerne l'article 20 pour pouvoir garantir la démocratie dans notre pays.
Est-ce que vous faites partie d'un mouvement qui inciterait le plus de femmes possible pour qu'elles puissent se présenter à tout type d'élection?
Je peux l'affirmer tout haut que je suis parmi les députés femmes qui incite les autres femmes à venir d'abord dans la politique et de pouvoir aussi postuler pour pouvoir être députée ou essayer d'espérer d'avoir des postes de responsabilité. J'ai été élue moi-même personnellement par les femmes. Ce sont les femmes qui m'ont soutenue et j'aimerais aussi faire la même chose pour ces mêmes femmes qui m'ont aujourd'hui élevée au poste où je suis. Donc, je ne cesserai de le dire, je ne cesserai d'exhorter les femmes afin qu'elles viennent me rejoindre et que nous puissions cheminer ensemble pour pouvoir changer le monde d'hommes en un monde de parité où la femme et l'homme peuvent travailler ensemble.
Merci beaucoup Marie-Thérèse Fifi Seni Mazuka, députée nationale de la ville de Lubumbashi dans le Katanga en RDC. Bon courage et à très bientôt. Au revoir.
Merci beaucoup à vous aussi et au revoir.
Arrête. Good night and good luck. This is what it all comes down to. Keep your head high, take a breath, look around you. Round two, you open your eyes. Flat on your back, you look to the sky. You rise.